21h à Bamako et à Ouagadougou, 22h à N'Djamena. Bienvenue dans Sahel Plus, présenté par Claire Morin-Gibourg. Bonsoir à tous, aujourd'hui au sommaire de Sahel Plus. Nous démarrons une semaine spéciale consacrée aux perspectives de l'année 2015. Le Mali va-t-il finir par réconcilier ses communautés ?
Fondamentalement, il n'y a pas vraiment de problème entre les communautés. Et qu'en ce sens-là, la réconciliation sera très facile.
Le point de vue de l'écrivain et journaliste Touareg Intagris El Ansari. Le Tchad sera-t-il menacé par la secte islamiste nigériane Boko Haram ?
Boko Haram, dans une confrontation frontale avec l'armée tchadienne, aurait sans doute peu de chance.
Analyse du journaliste tchadien Michael Didama. Enfin, le sculpteur Siri Kiki du Burkina Faso sera dans notre page culture. Mais auparavant, voici le bulletin d'information.
Bonsoir à tous, Jean-Roger Billon à ce micro. Au moins 6 morts en RDC dans un accident d'avion dans les montagnes d'Ouvira, dans la province du Sud Kivu. D'après l'administratrice adjointe du territoire d'Ouvira, jointe par l'AFP, l'avion provenait d'Ouganda, a fait escale technique à Bujumbura au Burundi et s'est écrasé 4 minutes après le décollage dans les montagnes proches de la cité d'Ouvira. La destination de l'appareil, c'était Pointe Noire au Congo-Brazzaville. Les causes de l'accident qui s'est produit de nuit sont pour l'heure inconnu, de même que la nationalité des victimes. Le Cameroun a été contraint hier dimanche d'engager pour la première fois son aviation pour repousser un assaut du groupe islamiste armé nigérien Boko Haram contre un camp militaire à la frontière caméruno-nigériane. Le ministre camerounais de la communication Issa Chiroma Bakari a indiqué que les assaillants ont subi une lourde perte. Au micro de Bagassi Koura, le porte-parole du gouvernement camerounais explique qu'un millier d'assaillants avaient pris d'assaut un camp militaire à la frontière tôt dimanche matin.
Et après avoir analysé la situation et compte tenu de la proximité, le chef de l'État a décidé donc de faire usage de la défense aérienne. Et c'est ainsi donc que nos forces aériennes ont eu à intervenir, ils ont été pilonnés et puis ils ont fui en catastrophe. Quoi.
De combien d'appareils parlons-nous ?
Écoutez, ça c'est des questions hautement stratégiques. Dites-vous simplement que l'armée de l'air camerounaise a intervenu avec efficacité puisqu'ils n'ont pas besoin de plus de 2 tours pour mettre en déroute nos assaillants.
Est-ce qu'il y a un bilan des victimes ?
Jusqu'à tout à l'heure, on était en train de faire le décompte. Sachez qu'ils ont beaucoup laissé de l'air sur le terrain.
Alors, est-ce qu'il faut donc désormais s'attendre à l'utilisation régulière des moyens aériens ?
Nous sommes en guerre contre une nébuleuse qui nous fait une guerre asymétrique. Nous disposons de plusieurs vecteurs. À chaque fois, il appartient donc aux militaires qui sont sur le terrain de décider de la nature de l'arme à utiliser pour faire face à l'agression.
Issa Kiroma, le ministre camerounais de la communication, interrogé par Bagassi Koura. En Tunisie, prestation de serment mercredi du nouveau président Beji Caïd Essebsi. La passation de pouvoir entre le président sortant Moncef Marzouki et Caïd Essebsi aura lieu ensuite au palais de Carthage. Selon le service de presse de la présidence, âgé de 88 ans, M. Essebsi a remporté le second tour de la présidentielle le 21 décembre avec 55,68% des suffrages selon les résultats définitifs proclamés ce lundi.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Le président ukrainien Petro Poroshenko a annoncé aujourd'hui son intention de rencontrer son homologue russe Vladimir Poutine le 15 janvier à Astana, la capitale du Kazakhstan. Le président kazakh Nursultan Nazarbayev ferait fonction de médiateur. Participeront également à ces entretiens le président François Hollande, le français, et la chancelière allemande Angela Merkel. Kiev et ses alliés occidentaux accusent la Russie de soutenir les rebelles de l'Est de l'Ukraine en représailles aux ouvertures de l'Ukraine vers l'OTAN. Une accusation démentie par Moscou. Et puis enfin, Barack Obama serait-il disposé à ouvrir une ambassade à Téhéran comme il veut le faire pour la Havane? Il ne faut jamais dire jamais, a répondu le chef de l'exécutif américain dans une interview à la chaîne de radio publique NPR. Un programme nucléaire pacifique vérifiable dans le cadre d'un accord avec la communauté internationale serait un premier pas, a dit le président américain. Puis la levée des sanctions, enfin la réintégration de l'Iran dans le concert des nations. Un accord nucléaire possible et Téhéran ne devrait pas rater cette opportunité, a averti M. Obama. La suite, c'est Sahel Plus, Claire Morin-Gibourg.
retour à la partie magazine de Sahel Plus sur VOA Afrique. Nous démarrons aujourd'hui une semaine spéciale de programmation autour des perspectives de l'année 2015 pour les pays du Sahel. Nous avons choisi de démarrer cette série par le Mali, toujours en butte à l'insécurité dans le nord du pays. Une insécurité qui augmente les tensions entre les communautés qui n'hésitent pas parfois à se rejeter la faute. Le Mali va-t-il réussir à amorcer une réelle réconciliation de ses communautés ? 5-4-3-2-1-0. Le Mali va-t-il réussir à amorcer une réelle réconciliation de ses communautés ? L'écrivain et journaliste Touareg, intégriste El Ansari, est lui plutôt optimiste.
Je pense que la réconciliation n'est pas tant au niveau des communautés ou entre les communautés elles-mêmes, bien que la crise ait créé une grande déchirure entre les différentes communautés, particulièrement du nord entre elles et du nord avec le sud. Je pense que la réconciliation, le problème se pose plutôt au niveau des acteurs, au niveau des belligérants armés, c'est-à-dire d'une part les groupes armés du Nord et d'autre part le gouvernement, enfin l'État malien. Donc je pense que fondamentalement, il n'y a pas vraiment de problème entre les communautés et qu'en ce sens-là, la réconciliation entre ces différentes communautés sera très facile dès lors que un accord de paix est signé entre le gouvernement et les différents groupes rebelles. Alors si on parle de 2014, il y a quand même des avancées significative parce que on a eu quand même cette feuille de route qui a été signée au mois de juillet sous l'égide de la médiation algérienne, qui est à mon sens une raison d'espérer voir le bout de ce conflit malien, oui.
Et en perspective 2015, pour vous, il y a des chances que la situation évolue dans le bon sens ?
Je pourrais dire que oui, en 2015, il y aura la paix, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, je suis convaincu que la feuille de route qui a été signée au mois de juillet 2014, qui a été signée sous la médiation algérienne, va forcément arriver à son objectif, c'est-à-dire de ramener la paix au Mali et trouver un accord dans lequel les différentes parties prenantes au conflit, les différentes parties armées toujours, se reconnaissent et par-delà un accord de paix pour 2015, oui, c'est tout à fait envisageable. Donc je pense que oui, je suis plutôt confiant sur un résultat positif de cette feuille de route en 2015. Oui. Pour la première fois dans le conflit malien, enfin, le conflit, disons, les rébellions de 90 à nos jours, pour la première fois, il y a vraiment une implication significative de la communauté internationale. Donc, il y a toutes les raisons d'espérer et de se dire qu'en 2015, on va certainement trouver un accord. Et il faut que les différents acteurs internationaux, notamment, et les différents belligérants pensent aussi à la souffrance des populations civiles qui sont dans le camp des réfugiés et qui sont dans des parties qui sont encore très difficiles d'accès dans le nord du Mali. Il faudrait qu'ils pensent à ces populations pour effectivement accélérer le processus et dépasser certains clivages.
Intégriste El Ansari, écrivain et journaliste Touareg, Intégriste a publié en 2014 « Éco-saharien, l'inconsolable nostalgie » aux éditions Cécile Langlois. Suite de nos perspectives 2015 et nous sommes au Tchad pour la seconde partie de l'émission. Le Tchad qui a vu la menace Boko Haram se rapprocher de ses frontières et tout particulièrement à Kousséri au Cameroun, la ville qui fait face à N'Djamena. Le risque d'attentat de Boko Haram sur le sol tchadien est-il réel ou existe-t-il des connexions entre les autorités et le groupe islamique ? Analyse de Michael Didama, directeur de publication du journal Le Temps à N'Djamena.
Est-ce que Boko Haram n'a pas infiltré le Tchad? Je n'ai pas d'éléments pour le dire, mais je sais que Boko Haram peut avoir de sympathisants chez nous. Et les raisons pour lesquelles nous n'avons pas les incursions de Boko Haram chez nous, peut-être qu'elles se situeraient au niveau de la préparation de nos forces à faire face à ces menaces. Mais je suis sûr aussi qu'au-delà de ça, les services de sécurité font sûrement le travail qui est de nature à permettre à ce que nous soyons dans une quiétude relative.
On dit que Boko Haram pourrait se sanctuariser au Tchad, que ce serait comme une base arrière. Qu'en pensez-vous ?
Bien, je ne sais pas quel intérêt le Tchad à accueillir sur son territoire Boko Haram ou de permettre à ce que Boko Haram se sanctuarise ici. Et je pense pas que les Tchadiens puissent accepter cela.
Est-ce que ça permettrait pas d'acheter une certaine sécurité, c'est-à-dire on les laisse rentrer et en échange, Boko Haram s'engage à ne pas faire d'attentats sur le sol tchadien? Ça serait pas un accord possible?
Nous n'avons pas d'éléments à notre disposition, mais je sais simplement que certains éléments de Boko Haram ont des contacts parmi nos forces. La preuve, c'est qu'il y a eu pas longtemps une réunion entre quelques responsables de Boko Haram et les autorités nigériennes pour la négociation devait aboutir à la libération des filles qui ont été enlevées. Sûrement, il y a des contacts, mais ces contacts sont sûrement de nature à faire à ce que chez les voisins, les choses se passent mieux.
On dit aussi que l'armée tchadienne est tellement bien entraînée et tellement efficace que Boko Haram n'ose pas se confronter à elle.
Bon, c'est que sur l'armée tchadienne, fait ses preuves contre le djihadisme au Nord-Mali et je ne sais pas si c'est l'équilibre de la terreur entre l'armée tchadienne et Boko Haram, mais l'armée nigérienne aussi est tout aussi forte. Nous avons la chance, si je peux parler de chance à ce niveau, d'avoir connu la guerre pendant très longtemps, d'avoir galé dans la guerre. Donc, je pense que c'est des éléments qu'il faut prendre en compte parce que Boko Haram, dans une confrontation frontale avec l'armée tchadienne, aurait sans doute peu de chance.
Et est-ce que Boko Haram pourrait s'approvisionner en armes auprès soit du régime, soit d'un marché gris?
Il n'y a pas longtemps, les forces nigériennes auraient saisi sur les îles du lac Tchad des armes humiliées, je crois, dans des sacs de charbon et des milliers. Je ne rappelle plus très bien l'histoire pour aurait saisi des armes qui seraient destinées à Boko Haram. Ce que vous devez savoir aussi, le Tchad a connu quand même plus de 3 décennies de guerre, donc sûrement beaucoup d'armes circulent. Je ne sais pas si les autorités contrôlent tous les frontières, j'en doute. Et quand nous savons que la Libye peut être considérée comme une poudrière ou un arsenal à ciel ouvert, il est possible que des armes puissent transiter par notre pays, étant donné l'étendue de ce pays et la pauvreté de nos frontières, bien que les forces de l'ordre et les autorités font un travail notable pour garantir la sécurité du pays. Nous ne sommes pas à l'abri d'un coup de Boko Haram, ça j'ai la ferme conviction. Je sais que des efforts sont faits pour nous mettre, disons, à l'abri du débordement de Boko Haram, mais il ne faut pas croire que nous sommes vraiment protégés à 100%, parce que quand vous avez ce qui se passe au sud de la Libye, les désordres dans l'ouest du Soudan, la situation au nord RCA, et Boko Haram à nos frontières, je pense qu'il ne faut pas croire qu'on est vraiment à l'abri de tout ça.
Michael Didama, directeur de publication du journal Le Temps à N'Djamena. Page culture, pour finir l'émission, nous partons à la rencontre de l'artiste sculpteur Siri Kiki, grâce à notre correspondant Zoumana Wonogo. Zoum s'est rendu à Laongo, un village situé à quelques 25 km de Ouagadougou. Pour lui, Siri Kiki est haut comme 3 pommes, mais très grand par son talent sculptural qu'il met au service des jeunes. Siri Kiki est aussi l'initiateur du symposium de sculpture sur granit qui a permis au village de devenir un haut lieu touristique. Siri Kiki.
J'ai eu la chance d'être retenu avec Félix Roulin, un Belge, pour réaliser des sculptures pour la place de la francophonie à Moncton. Alors j'ai réalisé « Le soleil se lèvera toujours ». Je vous dis que quoi qu'il se fasse, quoi qu'il arrive, le soleil ne peut pas ne pas se lever. Quoi qu'il arrive sur le monde, que tu sois malade, en bonne santé, que tu sois dans la fête, que tu meurs ou quoi, le soleil va continuer à se lever. Ça vous dit que le soleil est là pour tout le monde, il appartient à tout le monde. J'ai réalisé aussi des sculptures pour l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu à Vénissieux en France. J'ai beaucoup de sculptures dans les collections. Là, j'ai réalisé le terrain du Balafon également au Mali. Il y a des sculptures pour la mairie de Cocody à Abidjan. Il y a comme ça quelques réalisations que j'ai pu mettre sur certains lieux, sur certaines places à travers le monde.
Si un jeune vient vers vous et dit « Bon, grand frère, moi je veux être artiste sculpteur », en quelques mots, quel conseil pouvez-vous lui donner?
Mais vous savez, ici au Burkina, il y a beaucoup de jeunes qui sont passés dans mon atelier, qui sont passés à qui j'ai donné des conseils, qui sont aujourd'hui sculpteurs. C'est indéniable qu'ils sont sculpteurs, mais hélas, il y a beaucoup qui sont restés artisans, qui n'ont pas évolué vers la... Je respecte beaucoup les artisans, mais c'est une discipline qu'il faut respecter, qu'on laisse à sa place, Mais la création pure, il y a les gars qui n'osent pas être, se lancer dans la création. Aujourd'hui, j'ai deux ou trois jeunes qui, eux, ont résisté et qui font la création pure et qui sont des artistes, des créateurs. Voilà. Si un jeune aujourd'hui vient me voir qui voudrait être artiste, je lui dis, bon, d'abord, je vais t'apprendre à faire la sculpture. Je te dirai ce que c'est que la sculpture et je te dirai les contraintes qu'il y a là-dedans. Ou tu acceptes les contraintes, tu travailles, tu te situes dans un angle qui va faire de toi un créateur, ou tu fais la répétition, tu fais des choses que tu vendrais aux touristes, ce qui va te permettre de vivre. Et non, ça va t'éloigner de la création. C'est apprendre où aller. C'est.
Le sculpteur burkinabé Siri Kiki au micro de Zoumana Wanogo.
Ebola, attention Ebola, virus très dangereux, il ne pardonne pas non.
Stop Ebola.
Ebola, benya que vaya, personne n'est épargné. Alors attention, soyons toujours prudents.
Stop Ebola.
Évitez de manger la viande de course. Lavons-nous les mains avec du savon. Après avoir serré la main à toute personne, oui. Ne permettons pas à ce virus de nous atteindre, non. Alors ensemble, disons, stop Ebola. Attention Ebola.
Sahel Plus, c'est fini pour aujourd'hui. À la réalisation, Issia Kaba. À la technique, Tian Wang. Au micro, Claire Morin-Gibourg. Nous nous quittons en musique avec le collectif togolais Menewu pour le morceau Stop Ebola.
Stop Ebola. Oui, j'adore. De la Wokon Koga, on a mis l'eau, l'Ebola Bastime.
Ebola,
rendez-vous demain, 21h, temps universel, sur VOA Afrique ou d'ici là sur nos pages Facebook ou Twitter, VOA Sahel Plus. Bonne soirée et bonne nuit à tous.
Ebola n'englobe massacre miakoya ola ron papa me besoba et tu me fais ma mava asina na ya ton jour nouveau vent mi tu vas l'en pick up des yeux pastel en pick up n'a ton coup n'a notre pick up Ebola son accord gif olympique et Benny Johnny
Ebola
sangene si kujonto daho eyane si emyen yenga wene si kusinyake yo sangene si jamie aiye Ebola tawe kare anuye anu tamya eni anuye
Ebola somole timore na to Ebola somole timore na to
Ebola fika enso le benemina sia mia classi nyane bavo mia kula babe mia jae ne pemela dudwe
Ebola
ajikamba so mina jae ne pemela dudwe uchama na uchana nyabeda stop
Ebola stop Ebola
stop Ebola
nation Ebola stop Ebola
timone na to
timone na to
la fille est
mort.
Vu qu'elle est soir, ma troïlo. On dit bien, tu m'en es nato. On dit bien, tu m'en es nato. On dit bien, tu m'en es nato. Tout au patrick, mon ami, blanc, la bouille, kaba.
Tu m'en es nato.
La blanche est vive, ma ou ma comme
na puro koyo. Ti morenoto.